Où se trouve l'enfer? Le feu qui ne s'éteint jamais. Est-il dans un lieu mystérieux? Se trouve-t-il dans nos têtes ou peut-être sur Terre? Peut-on revenir de l'enfer? C'est ce que nous allons voir ce soir avec mon invitée, Louise Dauzet, qui a publié récemment le livre « Les oubliés de l'enfer vert » aux éditions City. Alors Louise Dauzet, bonsoir.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Et je vais tout de suite parler de votre livre, donc que je viens de mentionner, qui est un roman. Alors, les auditeurs vont croire qu'on va parler de l'enfer biblique, mais c'est peut-être un peu le cas. C'est un enfer quand même, c'est l'enfer vert. Je pense que tout le monde aura deviné qu'il s'agit du bagne, qu'on appelait l'enfer vert. Enfin, vous avez écrit ce livre. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est l'histoire d'un jeune homme, on peut dire un jeune homme, hein, l'histoire se passe en 1923, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pour des raisons familiales, comme on dit maintenant, des accidents de la vie.
C'est ça,
Un
on peut le dire
homme,
comme ça, sans trop en dire.
Un homme de bonne famille, qui n'avait rien pour devenir gardien de bagne, ou surveillant. Je sais que dans la pénitentiaire, on dit surveillant, on ne dit pas gardien, mais ça claque bien de dire gardien. Puis je crois que dans le langage populaire, on dit gardien de prison.
Absolument.
Et peut-être pour les bagnes, on disait gardien aussi, j'en sais rien, mais bon. Toujours est-il que donc c'est un jeune homme qui est étudiant parisien et qui décide de s'engager pour oublier son douloureux passé. Il profite de ce qu'il y ait pu beaucoup de volontaires, parce qu'il y a eu la guerre et que beaucoup d'hommes sont morts. Donc, on recrute à tour de bras. Et puis, lui, il pense peut-être voir l'aventure.
Changer de vie, surtout.
Voilà,
voir autre chose que
vie.
La guerre et les dégâts qu'elle a causés.
Alors, au lieu de s'engager dans la Légion, lui, il a choisi le bagne.
C'est un peu l'idée. Alors,
voilà. Allez-y.
Et effectivement, dans l'histoire, tout l'intérêt, c'est qu'il ignore totalement où il va atterrir.
Ouais.
Donc du coup, il pense qu'il va rester en métropole,
ouais.
Et pas du tout. Il se rend compte qu'on l'envoie d'abord à l'île de Ré, ensuite qu'il prend le bateau pendant un mois en passant par Alger, et enfin qu'il se retrouve en Guyane.
Parce que la France métropole comportait quand même quelques bagnes qu'on oublie.
Absolument.
Le bagne de Toulon, hein, qui est assez connu quand même. Et puis, il y avait peut-être un autre bagne sur l'île de Ré.
Alors l'île de Ré, c'était vraiment ce qui... Alors pour moi, c'était un endroit de transit.
D'accord, c'est que le transit.
Exactement. Ça ne veut pas dire que les détenus ne restaient pas quand même longtemps.
Ouais. C'était quand même un bagne, mais de transit.
Absolument. D'accord. Et il n'y avait pas de... Les travaux forcés, évidemment, n'étaient absolument pas similaires à ceux qu'on retrouve en Guyane.
Oui, il n'y avait pas... Enfin, d'accord, oui. Donc, lui, c'est pour la Guyane. Est-ce qu'il le sait dès le départ?
Il ne le sait absolument pas, et c'est une surprise.
Voilà.
Et vous vous imaginez bien que quand il arrive en Guyane, quand il voit déjà comment sont traités les prisonniers, ne serait-ce qu'à l'intérieur du bateau qui les emmène, donc dans un véritable bateau-cage, où ils sont enfermés pendant un mois de traversée, là, effectivement, quand il arrive en Guyane, et bah, du coup, c'est que le début du commencement.
Oui.
Voilà.
Je veux dire le début de la fin. on rit, mais c'est pas très drôle, votre livre.
C'est un sujet très triste.
Oui.
Et c'est un sujet très récent aussi.
Oui, 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 bah, ça fait 100 ans, c'est pas très vieux. Hein. N'oublions pas que le bagne a été fermé par extinction dans les années 50, hein, c'est pas vieux. Alors ce Charles, j'aime beaucoup le prénom, qui arrive en Guyane. Alors n'oublions pas de dire qu'il est bien surveillant et non pas prisonnier, parce que c'est tout l'intérêt de votre livre, c'est que nous allons avoir une vision en tant que surveillant. On parle toujours des bagnards, parce que les pauvres bagnards, bien sûr, c'est pour eux que le bagne est fait. Mais il y a aussi les gardiens qui sont, je dirais, les vrais, enfin, qui sont aussi les vrais prisonniers.
Mais oui, parce que en fait, il faut savoir que les gardiens sont logés dans ou à l'extérieur immédiat du bagne. Donc, ils ont droit aux mêmes conditions que les bagnards. Et c'est là où on a tendance à les oublier.
Ouais.
Mais en fait, quand un gardien est envoyé en Guyane, c'est littéralement une punition. Parce que beaucoup, beaucoup d'entre eux meurent, y compris dans
oui,
les gardiens.
Ils ont presque, peut-être pas autant, mais une vie aussi difficile que les bagnards.
Pas loin, parce qu'en dehors des travaux forcés, C'est quand même extrêmement fatigant.
C'est le même climat.
Voilà, de survivre aux 40 degrés.
Peut-être pas la même nourriture, ça va améliorer quand même.
Un peu plus de nourriture.
Ils sont quand même rémunérés.
Ils sont quand même rémunérés.
Pas grand-chose.
Mais attention, 40% des détenus meurent. Et il y a évidemment un pourcentage de gardiens aussi. Il y a un cimetière pour les gardiens. C'est pas pour rien.
Ouais.
Donc,
alors qu'ils étaient jeunes.
Alors qu'ils étaient plutôt jeunes. Ouais. Attention, on a un petit peu tout dans les gardiens. Ouais. On a des anciens militaires.
Ouais.
On a aussi des civils en temps de crise, entre guillemets. Donc, quand la pénitentiaire, le petit nom de l'administration pénitentiaire, a besoin de recruter, elle recrute large. Et c'est un peu comme ça que Charles, dans l'urgence, va se retrouver...
Alors, qui sont ces gardiens, effectivement? Parce qu'on ne va pas là-bas, on n'est pas volontaire, à part Charles.
Absolument. Ces gardiens, ce sont soit des anciens militaires, soit des gardiens de métier, qui ont pu, en plus, être mutés dans plusieurs...
Mais côté un peu, qui sont punis, il faut le dire, non?
Ah, c'est littéralement...
On ne va pas comme ça, par hasard...
Dans l'administration française, à l'époque, quand on parle des bagnes de Guyane, on parle littéralement, on l'appelle la guillotine, ou alors la guillotine sèche. Et ça veut bien dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on sait que ce bagne est un mouroir.
On y reviendra pas.
Il y a peu de chances. Alors, il y a des chances en tant que gardien, mais alors en tant que détenu... Ouais.
Est-ce que les gardiens étaient mutés pour combien de temps en général?
Alors, dans le cadre du roman, il y a plusieurs, évidemment, délais.
Mais besoin pas un...
Là, c'est pour 3 ans. Ouais. C'est un contrat de 3 ans. Et c'est tout à fait historiquement vrai. Voilà.
D'accord.
Mais on n'est pas muté pour 4 mois.
On y reviendra. Je sais que votre livre est extrêmement documenté. C'est tout l'intérêt aussi de ce livre. C'est qu'on voit que vous avez passé beaucoup de temps à y travailler. Et donc, les surveillants, donc vous dites 3 ans, ce qui est déjà quand même pas mal, parce que ça ne va pas arranger la santé. Et beaucoup reviennent malades quand ils reviennent, quoi. Ils ont le paludisme ou la malaria, les maladies de
la
chaleur, quoi.
Il y a effectivement des gardiens qui profitent d'un des passages de la Martinière, donc le bateau qui fait les allers-retours entre la métropole et la Guyane, pour en profiter pour prendre une cargaison de détenus. Alors, pas de détenus, pardon, de gardiens qui sont malades et qui ont besoin d'être rapatriés. Ouais. Mais ce n'est pas tous les 2 jours.
Il faut 3 semaines, j'ai lu, pour aller de métropole de l'île de Ré à Guyane.
C'est ça, presque.
Guyane.
Oui, presque un mois. Et tout dépend de la longueur de l'arrêt à Alger. On récupère aussi certains prisonniers.
Oui, puisque c'était encore l'Empire français. Bon, donc Charles arrive là-bas. Il a des conditions de vie quand même assez dures.
Tout à fait.
Il se familiarise avec notamment les porte-clés. Dites-nous qui sont les porte-clés.
Absolument. Les porte-clés sont une catégorie de détenus. En fait, il faut bien comprendre que le bagne est extrêmement éloigné de tout et que là-bas, c'est vraiment une cité qui s'est organisée. Et comme dans toute cité, il y a des travailleurs qui sont obligés de travailler parce que ce sont des travaux forcés, donc les détenus. Et il y a aussi, dans ces travaux forcés, plusieurs petits métiers. Et dans ces petits métiers, on a ce qu'on appelle les porte-clés. Les porte-clés, ce sont des détenus qui souvent sont algériens, viennent d'Algérie. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que, alors, les gardiens considèrent, à tort ou à raison, mais en tout cas considèrent que ces porte-clés algériens ont moins d'appétence pour l'évasion que les détenus qui viennent de métropole. Ce qui est quand même pour eux une excellente raison. Et la deuxième raison, elle est physique, c'est que les détenus algériens sont souvent plus petits que les détenus qui viennent de métropole ou qui viennent d'ailleurs. Et donc, ils peuvent se faufiler entre les cases et entre les détenus plus discrètement, ce qui avantage bien les gardiens. Parce que leur rôle, c'est d'effectuer les petites tâches qui normalement sont destinées à l'administration pénitentiaire, mais que les gardiens n'ont pas très envie de faire. Donc, il y a vraiment un système de débrouille dans l'ensemble du bagne, voire de magouille de temps en temps.
Une société à part entière.
Absolument, et éloignée de tout. Donc, il y a ses propres
sans
codes.
Sans foi ni loi.
Et c'est pas loin. Pas loin.
D'ailleurs, ces porte-clés me font penser au capot un peu. Ils sont mal vus, ils sont très mal vus des autres prisonniers.
Ah oui, les autres détenus les considèrent comme des délateurs. Ouais. C'est un peu des traîtres à leur propre cause. Ouais. Mais...
Alors, Charles donc, arrive, je vais lire un petit passage où on arrive en Guyane. Donc, il ne faut pas oublier que le bateau vient de France. Ils ont passé 22 jours, c'est ce que vous mentionnez dans le livre. Donc vous imaginez l'état physique et mental des bagnards qui sont pendant toute cette traversée dans des cages. C'est ce qu'on appelle
Absolument.
Les bateaux-cages. Je crois qu'ils avaient droit quand même à une promenade dans la journée.
Si jamais il n'y avait pas eu de problème à l'intérieur et qu'il n'y avait pas des punitions, etc. Voilà. etc. Mais oui.
Voilà, mais sinon, ils restaient donc comme accroupis.
Accroupis, serrés. On a des images d'archives où on les voit bien extrêmement serrés dans les cages, souvent debout. Et vous imaginez bien qu'il n'y a pas de système de toilette à bord ou de douche ou de quoi que ce soit. Absolument. Ils ne sont pas forcément bien nourris. Ils meurent pas de faim, mais ils sont pas bien nourris. Ils voient jamais le soleil, donc
Pendant la promenade.
Sauf pendant la promenade, mais la promenade, attention, c'est pas une promenade d'une heure. C'est un tour
pour leur
de bateau.
Dégourdir les jambes, quoi, histoire de dire.
C'est histoire qu'il y ait pas trop de morts à bord, parce que les morts à bord arrivent forcément.
Et ça doit embêter le personnel.
Et c'est embêtant de gérer un mort à bord, effectivement.
On le mettait à la baille et puis...
On le met à l'eau parce qu'on ne va pas faire marche arrière et on ne va pas conserver un corps.
Déjà, risque de maladie.
Absolument.
Alors, je lis. Les camarades de cabine de Charles avaient appris, bien avant leurs collègues, grâce à Georges, lequel tenait lui-même cette information d'un matelot, qu'il ne débarquerait pas dans l'une des villes de la côte. Je me suis trompé de texte. Ce n'est pas celui-là que je voulais lire.
Eh bien, ça fera deux textes, du coup.
je reviens, parce que comme j'ai dit ce qui se passait, je reviens au texte que je voulais lire. Et oui, parce que j'en avais souligné deux. Donc, je répète, ils arrivent à Cayenne. Des hommes dépénaillés, sales et couverts de taches rebutantes, apparurent, rangés deux par deux. Les traits tirés, ils s'engagèrent lentement sur la passerelle, complètement hagards et marchant avec difficulté. Certains, visiblement à bout de force, s'appuyèrent quelques instants contre la balustrade avant de se faire rabrouer par les surveillants. La plupart peinaient à ouvrir les yeux tant la lumière était éclatante, après 22 jours passés dans les cages sombres du navire. Une fois à terre et accoutumés à la luminosité, les bagnards ouvraient de grands yeux, intimidés et effrayés par cette végétation angoissante. L'un d'eux, un jeune garçon qui n'avait même plus la force de porter son paquetage, fondit en larmes. Tous semblaient écrasés par la fournaise ambiante et ahuris par ce nouvel environnement. On imagine très bien. Et c'est bien écrit, ce qui fait plaisir.
Je vous remercie.
Parce qu'il y a... Non, mais il faut le dire. Donc là, on est au début de la nouvelle aventure de Charles. Donc, il va passer combien de temps dans cet enfer ?
Lui va passer, en tout cas, le temps du roman, donc 6 mois. on s'arrête à 6 mois.
Oui, je rassure les auditeurs, il n'y a pas besoin de 6 mois pour lire le roman. On peut. Enfin, il fait quoi ? Il fait fait quand même 350 pages, oui. Mais moi, je l'ai lu très rapidement, je dois dire. Non, ça se lit bien. Donc, 6 mois. Alors, racontez-nous, histoire de... pas du trésor, mais de la recherche de l'énigme des eaux.
Oui.
J'avance un petit peu dans l'histoire.
Oui, vous avancez même bien dans l'histoire. Mais effectivement, toute l'intrigue, en dehors, bien sûr, du côté immersif de Charles, où il découvre le bagne, du coup, en même temps que le lecteur, ça reste un roman. Oui. Donc, du coup, évidemment... Il y a des intrigues à l'intérieur.
Voilà, c'est là où je voulais en venir.
Et effectivement, on a des disparitions inexpliquées d'un côté, on a des corps retrouvés de l'autre. Maintenant, qui, quoi, comment, entre les gardiens, entre les détenus, entre l'administration civile, qui a quelques hommes dans le village d'à côté, qui a fait quoi ? Bien entendu, c'est romancé. Ceci dit...
Moi, je n'ose pas trop en dire parce que je veux pas divulgâcher les intrigues. Alors, je préfère vous laisser la responsabilité de dire juste ce qu'il faut dire.
Mais effectivement, lors d'une mission où Charles est censé surveiller des prisonniers dans un autre camp, parce qu'il faut bien savoir que la Guyane,
il y a plusieurs camps qui forment le bagne.
Exactement, et tous les camps ne sont pas... aussi agréable, on va le dire. Il y a des camps qui sont vraiment très difficiles.
Il y a pire que l'enfer.
C'est ça, on trouve toujours pire. Ouais. Et lors d'une mission, effectivement, Charles, qui est à ce moment-là accompagné d'un autre collègue gardien et justement d'un porte-clés, donc ces détenus qui aident l'administration pénitentiaire, font une découverte macabre. Et à partir de là, Charles, qui est déjà extrêmement horrifié de ce qu'il voit et de ce qu'il découvre au quotidien, parce qu'encore une fois, je parlais tout à l'heure de système de magouille. Ce système est vraiment répandu et la magouille touche aussi, évidemment, les gardiens eux-mêmes. Donc du coup, Charles va finir par mener l'enquête, aider justement de ce détenu et de son collègue.
Mais là, vous survolez, là. Donnez-nous le détail quand il trouve une espèce une fausse...
Ah, vous voulez que je raconte complètement l'histoire des cadavres?
Oui, parce que c'est pour titiller un peu le lecteur.
Pendant cette mission, une poule s'évade. Du coup, les trois hommes courent derrière parce qu'une poule, ça vaut littéralement de l'or en Guyane à ce moment-là.
Faut pas oublier que, comme ils n'ont pas beaucoup à manger, le moindre animal comestible, ça devient un trésor.
Absolument. Ouais. Donc, les trois hommes courent derrière la poule, dévalent un ravin en pleine jungle. Ouais. Et là, tout d'un coup, tombent sur quoi? Non pas un crâne, mais plusieurs crânes. Ouais.
Un charnier,
absolument. Alors, Charles est évidemment extrêmement choqué. Ouais. Charles, évidemment, propose d'en parler directement à la hiérarchie.
Mutisme.
Et Charles se retrouve confronté justement à un énorme mutisme.
Voilà.
Et va faire remonter l'affaire très très loin, etc. etc. Voilà. Et on saura qui sont les coupables et qui sont à qui appartiennent ces crânes.
Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que autour du bagne, il y a toute une petite société. Mais ça, on va y revenir quand on parlera précisément de l'univers
carcéral
et de ce qui s'y passe autour. Parce que les bagnards, et ça, vous êtes très documentés, étaient voués à rester en Guyane. C'est-à-dire que même une fois libérés, souvent, on leur accordait quand même un petit lopin de terre pour...
Alors, pas souvent, mais ça arrivait que certains détenus d'une classe très particulière, que l'administration considérait un peu comme exemplaire...
Les radiés, non? C'était pas...
Non, c'est là, non, on parle des concessionnaires qui, effectivement, avaient un petit lopin de terre. Les radiés, c'est très intéressant.
Ouais,
ça fait partie des petits métiers du bagne.
Ouais, on y reviendra. J'ai bien aimé ça. Non, mais ça fait penser au film avec Steve McQueen et Dustin Hoffman... Papillon.
Oui.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais...
Alors, je l'ai vu, évidemment. Et c'est extrêmement intéressant, justement.
On leur donne, en sortant, un...
Un petit pécule.
Voilà. Et un petit lopin de terre.
Et alors,
minuscule.
C'est ça, pour certains.
Histoire de dire qu'ils sont libres, si on peut dire, mais libres de rester sur un rocher, quoi.
C'est surtout que c'est très pratique, parce qu'en fait, ils vont cultiver, ce lopin de terre va être cultivé pour le compte de l'administration.
Aye.
Donc, eux vont conserver une partie absolument minime.
Pour leurs besoins personnels.
Ça n'en reste pas moins des prisonniers libérés. Mmh. Ça reste des prisonniers, un peu. Hein. Et l'administration, elle, va bénéficier de denrées qui vont aller directement nourrir les bagnards.
Alors, dites-nous ce que c'était l'espèce de... Alors, le doublage, j'ai appris le doublage,
oui,
qui est une...
C'est, à mon sens, la double peine,
oui,
la peine la plus injuste de cette histoire. C'est-à-dire que le doublage, c'est une règle que tout le monde ignore. Le grand public l'ignore et les détenus eux-mêmes l'ignorent au moment de leur condamnation.
Moi-même, alors que je me suis intéressé à la question, mais je ne la connaissais pas, cette double peine.
Et pourtant, c'est véridique.
Ouais, non, mais on le sait, je sais parce que, encore une fois, ce livre est extrêmement documenté. Pour quelqu'un qui s'intéresse aux conditions des bagnards et du bagne en général et de l'administration française pénitentiaire, c'est extrêmement instructif. Donc, on revient à ce doublage.
Et ce doublage consiste en fait à, comme son nom l'indique, doubler la peine. Par exemple, un détenu est condamné à 6 ans de bagne. Le détenu va partir pendant 6 ans et va effectuer son temps de bagne avec les travaux forcés.
6 ans à l'époque, ça pouvait être pour un simple vol.
Ah oui, bien sûr.
Mais aujourd'hui, personne passerait 6 ans en prison pour un vol. C'est là où il faut bien se mettre dans la tête l'esprit de l'époque.
Oui, hein, on les condamnait à l'exil et c'est pas pour rien.
6 ans aujourd'hui, c'est une attaque à main armée. Hein, voilà. Sans, quand même, bon, sans mort. Mais c'est une attaque à main armée. Alors qu'à l'époque, 6 ans, c'est une peine, somme toute, assez banale.
C'est-à-dire que vous pouviez effectivement être condamné pour ce qu'on appelle vagabondage, et c'est-à-dire que vous avez trop traîné à des endroits où on ne voulait pas vous voir, vous étiez un SDF à l'époque, bah, si on vous avait trop pris, et bah, au bout de 3-4 fois, vous pouviez terminer
c'est
au bagne.
C'est ça, récidiviste, multirécidiviste.
Voilà, pour des tout petits larcins, ou même le crime de vagabondage.
C'est pas un crime, c'est un délit de vagabondage quand même.
C'est
un crime.
Bien entendu.
Mais je sais que le délit de vagabondage n'a été supprimé qu'il n'y a pas très très longtemps. C'est pas très vieux. Il y avait un délit de vagabondage, en effet. Enfin, tout étudiant en droit devrait le savoir. Donc, la double peine.
Donc,
alors, le doublage.
Et donc, ce doublage, c'est très simple. C'est 6 ans de bagne, par exemple. Et derrière, 6 ans obligatoires sur place, en Guyane. Où vous voulez, vous êtes libéré. Mais il ne faut pas oublier qu'en dehors du bagne, il ne se passe rien à l'époque. Il n'y a rien d'autre. Donc, du coup, les anciens détenus ne gagnent pas d'argent. Et donc, du coup, redeviennent SDF. Et donc, on arrive à des situations ubuesques où des détenus commettre des larcins
pour rentrer
au bagne, parce que le bagne, c'est pas l'idéal, hein,
non.
Mais au moins, ils sont
nourris.
Logés et nourris.
C'est terrible.
C'est incroyable.
C'est terrible, parce que quand on commence le livre, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de pire que cet enfer? Mais quand ils en sortent, eh ben, c'est pas mieux.
Ah non, mais...
Parce que la Guyane, faut pas oublier, c'est pas un club de vacances, c'est l'enfer vert.
Mmh.
C'est-à-dire qu'il y a des animaux sauvages, il y a une chaleur étouffante,
c'est ça.
Il y a des maladies, un climat extrêmement hostile.
Les travaux forcés, tout simplement.
Et les travaux forcés, mais je parle d'une fois qu'ils sont libres, ils ne font plus de travaux forcés. Et quand ils sont
c'est
libérés,
ça.
Je parle.
Oui,
donc,
oui, oui.
Ils sont cassés. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils sont cassés par leur temps d'incarcération.
Ouais.
Mais une fois qu'ils sont libres, ils ne doivent pas être en très bon état, parce que passer 6 ans à casser des cailloux, c'est, je pense que, on a plus que des hernies discales. Et ils ne reviennent jamais.
Pour la grande majorité, l'immense majorité, ils reviendront jamais. Parce que non seulement y a cette peine de doublage qui les oblige à en fait vivre et s'installer, entre guillemets, pendant 6 ans supplémentaires, donc leur famille les a oubliés depuis le temps, mais en plus de ça, pour rentrer, la navette n'est pas gratuite, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faut payer le trajet de retour, et ça coûte très cher.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est quand même traverser la moitié de la Terre.
Ils sont littéralement condamnés à l'oubli et à l'exil.
Et c'est comme ça qu'on colonise, en fait, la Guyane.
Oui, c'est comme ça qu'on essaye. En tout cas, c'est une stratégie de colonisation.
Effectivement. Parce qu'avant avant l'installation du bagne, Cayenne, c'est quoi? C'est une toute petite ville.
Eh ben, c'est pas
grand,
en tout cas, pour la France, c'est pas grand-chose.
Ouais, ouais.
C'est une colonie,
ouais.
Mais maintenant, la colonie, le but d'une colonie, c'est de la peupler.
Ouais,
c'est qu'il y ait des Français, du coup, qui... Et effectivement, ça a été une des stratégies. Maintenant, ça n'a pas non plus super bien marché, dans le sens où les rares femmes qui ont été envoyées dans ce but-là, les rares femmes mouraient en moyenne à 36 ans.
Ouais.
Et donc, forcément, ça faisait pas des grandes familles derrière.
Non, sûrement, oui. Oui. Et contrairement en Nouvelle-Calédonie, on y envoyait les communards.
Absolument.
Donc, voilà.
Le bagne de Nouvelle-Calédonie est beaucoup plus politique que celui de Guyane.
C'était du droit commun.
Voilà, malgré Dreyfus,
c'était une exception.
Voilà. Exactement.
Ouais,
ouais. Il y a très très peu de prisonniers politiques en Guyane.
Ils ont le droit à quand même un statut particulier, les politiques.
Oui.
J'ai appris un tas de choses. Dans... Non, mais il est fait pour ça, en fait, votre livre.
En
dehors de l'histoire.
Oui.
Mais c'est vraiment très, très documenté.
En fait, c'est une manière, en faisant en sorte que ce ne soit pas trop lourd. Mais l'idée, c'est vraiment de raconter la grande histoire avec un grand H majuscule à travers une petite histoire d'un jeune homme qui se retrouve en Guyane, impliqué dans des affaires de meurtre. Voilà.
Lui, alors est-ce qu'on doit dire s'il revient ou pas?
On dit rien.
On dit rien, d'accord. Bon,
on garde la surprise.
Donc voilà, on ne sait pas si... Voilà. Il s'en passe des choses. Il y a quand même quelques évasions, vous le mettez. Alors oui, enfin, je parle d'évasions réussies, parce qu'en fait, c'est des fausses... Enfin, moi, je n'appelle pas ça des vraies évasions.
C'est vrai.
Des tentatives, il y en a tout le temps.
Mmh.
Vous en parlez, 20%, ce qui est énorme.
C'est énorme.
C'est énorme. Mais en fait, ce n'est pas des vraies évasions, parce que soit ils sont bouffés par je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, comme...
Par les animaux sauvages,
oui,
simplement.
Non, mais je veux dire, je sais pas, il y a quoi comme félin, je ne sais pas, il y a des...
Il y a des agoutis, il y a des
jaguars, enfin bref, des gros animaux, mais oui. Moi je vois tout simplement mordu par un serpent ou
une
piqué
araignée,
par une mygale ou autre comme ça. Donc faut déjà les vrais murs, c'est la jungle.
Oui, et le Maroni et le fleuve, bien sûr, qui beaucoup se noient. Oui. Beaucoup ne savent pas nager, beaucoup se noient. Et puis il y a quand même.
Ah oui, parce que c'est sur une île, entre. C'est une île.
Non, c'est un fleuve qui passe.
Le bagne, il est.
Alors, il y a des bagnes.
Il y a l'île du Diable, je crois.
Ça, c'est pour les politiques, pour les îles. Et il y a aussi une partie de l'administration et certains prisonniers condamnés aux assises. Okay. Voilà, là il y a effectivement quelques bagnards, mais le reste c'est sur les terres, soit directement à côté de la mer, soit vers l'intérieur des terres, et pour le coup ça suit un petit peu la ligne du Maroni.
Du fleuve.
Oui.
Okay. Mais alors, vous dites beaucoup meurent de faim ou de soif, même une fois évadés.
Mais absolument, on retrouve des corps, et d'ailleurs si jamais on ne retrouve pas des corps, on peut retrouver des bagnards en train d'agoniser. Il y a même ce qu'on appelle des chasseurs d'hommes, c'est le nom officiel.
C'est horrible.
Qui sont des gardiens dont le rôle exclusif est de récupérer les bagnards qui ont tenté de s'évader.
Et
ils prennent 10 francs à chaque bagnard retrouvé et ramené.
Ah oui, c'est des primes.
c'est un système d'incitation, comme un autre.
C'est comme les contrôleurs à la RATP ou à la SNCF, il y a une prime.
Oui, alors c'est pas tout à fait la même implication, mais je vois l'idée.
Non, mais vous savez que il touche une prime de contredanse.
Donc, mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évasions en Guyane. Il y en a tellement qu'effectivement, les tribunaux sur une des îles du Salut siègent en permanence pour juger. Ça va très vite, bien sûr, mais pour imposer la énième mention évadée.
Alors, qu'est-ce qui risque ?
Ah bah pas grand chose, on va pas aller... Ouais. Si, c'est pas vrai. En fait, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a toujours pire. Dans les bagnes de Guyane, on a l'impression que quand on arrive, c'est l'enfer. Et en fait, il y a toujours une sous-salle de l'enfer.
C'est ça qui est terrible, c'est qu'on se dit, bon, plutôt tout que cet enfer, donc qu'est-ce qu'il reste à faire ? Chercher à s'évader. Mais on pense qu'on n'a rien à perdre. Eh bien si, on a encore à perdre.
Absolument, ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a... Les camps sont un peu spécialisés. Il y a des camps pour certaines catégories de bagnards, donc ceux condamnés aux assises et ceux qui ont plutôt commis des menus larcins et qui sont vraiment relégués, c'est leur nom officiel.
Oui, voilà. Trois catégories, on y reviendra.
Exactement.
Oui, alors là, quelle est la punition, la punition du...
Eh bien, à ce moment-là, on va les transférer de camp. Ça va être un camp un peu plus compliqué, avec des conditions encore plus compliquées, en pleine jungle, où l'humidité est absolument insupportable. Et au fur et à mesure, on va les envoyer dans le camp le pire. C'est le clan de Charvin, qu'on appelle littéralement le camp de la mort. Et le concept dans ce camp, c'est que les forçats effectuent toujours les travaux obligatoires, mais en plus de ça, ils le font nus, entièrement, chaussures incluses, pour les empêcher
de s'évader.
Comme
ça, ils ne peuvent pas s'évader, et on les reconnaîtrait tout de suite, évidemment.
Oui, et je ne vous cache pas que le taux de mortalité à l'intérieur de ce camp était effarant.
Et Steve McQueen, dans le film Papillon, à un moment, il est puni, il est dans un cachot, seul. Et pour manger, il doit juste sortir sa tête du cachot.
Oui.
Et en fait, il sort jamais. Il est enfermé. Il sort sa tête dans une lunette, par une lunette. On lui donne, on lui donne quelques cuillères d'un infect.
D'un mélange, ragoût, généralement, c'est un type de ragoût, un mélange pas très.
Et je crois qu'on le rase quand même. Il me semble qu'on le rase. Il y a une scène qui est assez effroyable. Il sort donc sa tête et il regarde son voisin de cellule qui, lui, est déjà là depuis quelques jours, mais qui est ravagé. Enfin, c'est pire que tout. Et il se dit, j'espère que je ne serai pas comme ça. Et quelques jours après, c'est lui qui est ravagé et il regarde l'autre voisin qui est plus jeune et qui est là depuis moins de temps que lui et qui fait la même réflexion.
C'est ça, et ça c'est très courant. C'est effectivement une petite punition avant de partir dans un camp qui est pire. C'est ce qu'on appelle des cellules basses où littéralement le concept c'est d'obliger le détenu qui est à l'intérieur à ne pas pouvoir ni s'allonger ni s'asseoir, se mettre dans une position entre guillemets confortable. Et le concept aussi, c'est que
dessus, souvent, c'est des barreaux. C'est
voilà. Et pourquoi c'est des barreaux?
Pour le surveiller jour et nuit.
D'une et de deux, parce que il fait 45 degrés. Et donc, du coup, il prend le soleil. Ouais, ouais. Et évidemment, c'est comme ça qu'il se retrouve à délirer. Et non, c'est une punition assez insupportable.
C'est
et relativement courante.
Douloureuse. Et il bénissait la pluie.
Ah, bah ça, il vaut mieux la pluie, bien sûr.
Vous pouvez boire, se rafraîchir et peut-être même se laver un peu.
Bien sûr.
C'est horrible, mais on le vit avec lui. C'est un très beau film. Hein. Papillon qui a existé, hein, c'est son vrai nom, c'est Henri Charrière. C'est un bagnard qui a survécu.
Mmh. Alors, il s'est évadé.
Qui s'est évadé. Il en a fait un livre. Bon, c'est romancé, mais... Oui. Il a quand même été bagnard. Il a, lui, réussi, ce qui est quand même un exploit.
Oui.
Et il a vécu en Espagne et il est plutôt mort dans l'opulence parce que son livre a très bien marché.
Oui, bah derrière l'adaptation en film.
Voilà, d'où le film.
Oui.
Alors lui, c'est le contre-exemple.
Lui, c'est le contre-exemple, mais lui, surtout, c'est un bagnard. Charles est un gardien.
Oui, il faut pas oublier.
Voilà, c'est ça.
Pas oublier.
Donc lui ne va pas s'évader.
Ouais.
Déjà parce qu'on l'a dit,
il a
très peu de chances de réussite.
Ouais, ouais, ouais.
Deuxièmement, parce qu'il est engagé, il est bien éduqué. Et où est-ce que vous voulez qu'il aille et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais effectivement, il vit ça. Ces 3 ans de mandat, on va dire, sont extrêmement. Ouais. Il est au bagne aussi. Il vit au bagne et subit le bagne.
On va faire une petite coupure musicale dans le ton.
Bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Tu peux
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Vous êtes sur Radio Courtoisie. Vous écoutez le bal des facétieux et ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Louise Dauzet pour son livre « Les oubliés de l'enfer vert ». Alors Louise Dauzet, avant l'interruption, nous en étions à cette vie de bagnard. Abordons les différentes catégories là parce que c'est une ville, c'est une société dans la société. Commençons par la classe des garçons de famille. Qui sont les garçons de famille ?
Alors, les garçons de famille, pareil, très intéressant, mais c'est plutôt les travaux forcés. En fait, il y a plusieurs catégories, effectivement, de bagnards. Il y en a trois. On parlera très peu des prisonniers politiques, des condamnés politiques.
Ça, c'est l'exception.
Parce que c'est une infime minorité des prisonniers. Et en plus, comme vous le disiez, ils sont sur une petite île à part et ils n'ont pas d'interaction avec les autres détenus.
Ils sont peut-être un petit peu mieux traités, j'ai l'impression.
Absolument.
Ils gardent une certaine dignité, quand même.
Disons que les travaux forcés au sein d'une toute petite île, qui en fait a un gros rocher, sont quand même relativement mesurés. Ouais. Concrètement, c'est prendre les noix de coco qui sont tombées et qui ont bouché le seul chemin pour les mettre à l'eau.
Oui,
ça consiste en ça.
Ça va.
Ouais. Voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres détenus. Ouais. Et ensuite, on a deux types de détenus.
Qui sont tous des droits communs.
Alors, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les transportés. Les transportés, effectivement, c'est les condamnés aux assises. Mais par contre, ce sont pour des vrais crimes. Donc, ça va être des meurtriers ou des voleurs de grande envergure. Mmh. Et eux, ils sont considérés par la métropole comme des délinquants uniques, presque par accident. Donc, la peine de travaux forcés s'explique. Ils purgent leur peine et ils reviennent après la seconde peine du doublage. Bravo. Si bien sûr ils ont les moyens de se financer un voyage ou que leur famille finance un voyage. Et la deuxième catégorie de bagnards, ce sont les relégués. Et à mon sens, c'est la catégorie certainement la plus intéressante et intricante parce qu'il y a tout dans les relégués. Et comme le nom l'indique bien, ils sont concrètement oubliés et un peu enterrés en Guyane. Mmh. On les envoie, on sait qu'ils ne vont jamais revenir, parce que pour la plupart, ce sont des gens qui ont commis des petits larcins, ou qui ont pratiqué le vagabondage.
Ils étaient déjà marginaux,
donc, absolument.
Sans famille.
Donc, on les oublie. Ouais, voilà,
c'est
on s'en débarrasse.
C'est les oubliettes de l'époque.
Absolument, on s'en débarrasse.
D'où la notion de guillotine sèche.
Oui, absolument.
Oui, parce qu'ils vont mourir là-bas.
Oui, absolument. Et c'est vrai que dans ces deux catégories, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y en a une qui est méprisée. Donc les relégués sont vraiment méprisés, personne ne leur parle, ils n'ont pas d'interaction avec les transportés, donc les criminels. À l'inverse, ces criminels-là vont jouir d'une certaine respectabilité, non seulement au sein de leurs égaux, donc des détenus, mais aussi au sein des bagnards, des gardiens.
Les gardiens.
Ce qui est hyper étonnant.
C'est très curieux, oui.
Oui, en fait, pour reprendre une phrase d'une archive, je cite, « Il vaut mieux être un criminel de sang qu'un voleur de poules. »
Ah oui.
On est plus respecté en tant que criminel.
Oui, c'est des caïds, on dirait aujourd'hui. Ils font la loi, quoi, un peu. Voilà. Aujourd'hui, dans la hiérarchie de la pénitentiaire de point de vue... prisonniers, le haut du pavé, c'est les braqueurs. Braqueurs de banque, c'est ceux qui sont les mieux vus, qui sont des chefs quoi, de bande. Et puis les tout derniers, bon, il y a quand même une certaine morale, ce sont ce qu'ils appellent les pointeurs, les tueurs d'enfants ou les violeurs d'enfants.
Qui se retrouvent, eux, en bas.
Et eux, ils sont battus, ils sont maltraités par... Alors qu'aux détenus,
il y a toujours une hiérarchie.
Il y a une certaine morale, mais ce qui est étonnant chez vous, c'est que là, c'est plutôt l'inverse, parce que les marginaux, Les vagabonds, ils n'ont pas fait grand-chose, en fait.
Et le problème, c'est que, comme vous le disiez, ils sont déjà marginaux en France. Ils vont rester marginaux, mais personne ne veut d'eux. Voilà, et c'est des gens... Mais ça peut être aussi un... Attention, sont pas tous non plus des marginaux. On retrouve des situations dramatiques où on a des jeunes hommes, ou pas jeunes hommes d'ailleurs, qui ont été condamnés 3 ou 4 fois pour vraiment des petits vols. Et qui se retrouvent une famille éclatée pour, au final, très peu de choses.
Oui, parce qu'on avait les cas sociaux. Aujourd'hui, on dirait des cas sociaux. Il y en a, malheureusement, mais aujourd'hui, on ne met pas en prison...
c'est pas la même époque, heureusement,
On ne met plus en prison pour un vol de supermarché, même au bout de 100 récidives. De toute façon, c'est des gens où la prison ne va pas les arranger. Ils vont apprendre plutôt l'école du crime. Là-bas, on les envoie pour les oublier.
C'est ça, on les condamne à l'exil et aux travaux forcés, ce qui permet évidemment de...
Main d'œuvre à
voilà, pour construire des bâtiments, parce que c'est eux-mêmes qui ont construit le bagne.
Ils s'entretiennent leur propre bagne.
Exactement.
Oui, parce qu'il faut dire qu'en plus, ce que je dis, les vrais murs, c'est la jungle, le fleuve et l'océan.
Ah, mais
parce qu'ils sont souvent en dehors de l'enceinte.
Ils passent leur temps en dehors de l'enceinte pour travailler. Et les travaux sont dans les champs, peuvent être à l'intérieur, on les envoie par exemple, alors, pas tout seul, il y a un gardien, mais pour 10 détenus, ou 2 gardiens, pour 15 détenus, il ne va rien se passer si jamais tout le monde court en même temps.
Ouais.
Mais... Aucun intérêt. Le bagne, en dehors de la boisson, parce qu'il y a du vin au bagne, donc de la boisson, de la nourriture, de l'eau, de la protection des animaux, des indigènes, la population donc locale, autochtone, qu'on appelle à l'époque les indigènes, pareil, les relations ne sont pas bonnes, il n'y a pas de relation en fait.
Ils comprennent peut-être pas.
Bah, bien sûr que non.
Ouais.
Bien sûr que non. Et donc, voilà, c'est danger à l'extérieur du ban. Mais par contre, oui, effectivement, les gardiens, les détenus sont quand même extrêmement libres, peuvent circuler, peuvent passer une nuit dehors, mais jamais ils vont s'enfuir.
Alors, pour en revenir à votre livre, la vie d'un gardien là-bas, ou d'un surveillant, il peut venir avec sa petite famille ou
Elle arrive après la famille. Elle prend un autre bateau, dans lequel il n'y a pas de détenus, c'est réservé pour les civils. Et elle arrive un petit peu après, quelques mois après. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'entre eux qui meurent. Parce que même s'ils sont mieux logés et mieux nourris surtout, et beaucoup sont atteints de scorbut, parce que la traversée, elle est longue.
Dans des conditions
qui restent pas bonnes.
Dans des conditions qui restent pas bonnes. Voilà. Que celles des bagnards.
Exactement. Donc, à côté du cimetière des gardiens.
Quand on a déjà survécu au voyage, il faut déjà, après, s'adapter au climat.
Pas oublier que c'est pas la même époque.
Ouais.
Donc, on n'a pas d'images, d'archives, d'enregistrements. Ouais. On ne sait pas comment c'est la Guyane.
Ouais.
Et beaucoup de familles déchantent énormément, bien sûr.
Mais c'est pas très sympathique de la part de ce gardien de dire à sa petite famille, venez...
Il peut pas savoir, et puis...
Mais ils s'écrivent quand même, il y a du courrier.
Oui, mais le courrier...
Dreyfus, il recevait des lettres.
Il faut un petit peu de temps quand même pour que ça arrive.
Un peu de temps,
mais vous rendez compte,
est relatif, un voyage
sur
de 3 semaines.
Mission de 3 ans, vous feriez pas venir votre famille?
Si c'est pour leur faire vivre l'enfer...
Oui, mais encore une fois, on ne le sait pas.
Ce qu'il y a, il le sait.
Mais la famille est déjà envoyée, déjà prévenue, c'est dans les circuits. 300 sans votre famille.
Oui, donc...
Je les aurais fait venir, je crois. Attention, ils sont mieux logés, bien entendu. Il y a évidemment moins de morts parmi les civils que parmi les bagnards. C'est pas les mêmes conditions.
C'est le bagne quand même.
Ça reste le bagne. Ça reste le bagne avec rien du tout de construit, très peu. Les bagnards ouvrent des voies.
Je sais pas si madame était très contente.
Ah, ça.
Ma pauvre dame. non, mais vous imaginez, elle pense qu'elle va aller sous les cocotiers, dans le soleil.
C'était le cas de beaucoup de familles qui allaient dans les colonies. C'était la grande aventure. Certains n'en revenaient pas.
Oui, c'est vrai qu'avec nos yeux d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est le club Méditerranée. Mais non, mais bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que pour des militaires, faire venir leur petite famille,
Attention, tous ne sont pas militaires.
Non, non, mais vous avez dit qu'il y avait quelques...
Oui, quelques anciens militaires.
Bah, il y avait bien quand même des officiers dans les grades...
Oui.
Dans l'administration, je dirais, de supérieure.
Oui.
Il y avait bien quelques officiers. Donc.
Oui, mais ils ont le choix. Ah. Vous avez raison, ils ont le choix. Ils peuvent les faire venir ou pas.
Il faut pas y aller si on est marié. Enfin, je sais pas, ça me paraît... C'est un peu comme la Légion. Les légionnaires, ils sont pas mariés. Ils se marient après. Mais pas pendant. Enfin, il me semble, mais après, bon...
C'est vrai qu'il y a... Les choix personnels de chacun.
Non, mais ce que je veux dire, c'est au-delà des choix, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait que, je sais pas, il y ait des bâtiments spéciaux, mais qu'est-ce que vous voulez faire?
Ah, il y avait des bâtiments, attention, les familles étaient logées dans des maisons à part.
Quel est le surveillant? Lui, il travaille, mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre famille alors? Ils passent leur temps à quoi?
Mais,
C'est pas une garnison de province comme on avait à Saumur, Limoges ou Metz. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il faisait?
Il s'ennuyait très fort. Voilà. Alors, monsieur travaillait, à l'intérieur ou à l'extérieur du bagne. Et madame, on va revenir au garçon de famille.
Ah.
Et madame, alors, ne discutait pas avec son garçon de famille, mais par contre, se servait de lui. Les garçons de famille, ce sont un des travaux forcés. Somme toute, beaucoup plus agréable que d'aller beaucoup plus.
J'aurais bien pris, c'est...
Moi aussi, j'aurais pris...
Fonction garçon de famille.
Alors, vous vous doutez bien que c'est pour les détenus, les moins dangereux, et souvent justement ce sont ceux qui ont commis le délit de vagabondage. Et ces garçons de famille, but, c'est de travailler toute la journée au domicile des colons.
Comme des domestiques.
C'est littéralement des domestiques. Souvent, ils ont une particularité ou une connaissance particulière. On va retrouver des couturiers, on va retrouver des cireurs de chaussures.
Oui, ils savent faire quelque chose et reprennent leur métier... là-bas.
C'est ça.
Ça rend service à tout le monde.
Exactement, et ça les occupe aussi. Ce sont souvent des jeunes assez frêles, donc ça rend service à tout le monde. Et effectivement, ces garçons de famille vont travailler toute la journée au domicile des colons, mais évidemment, la nuit, rentrent dans l'enceinte du bagne auquel ils appartiennent et dorment dans leur case.
Oui.
Parce qu'évidemment, il y a plusieurs cases dans chaque bagne, et chaque case appartient à une catégorie de bagnards, soit les blancs, soit les noirs.
Des cases, des quartiers.
Oui, on appelle ça des cases.
Ouais,
mais c'est une grande maison très longue, une grande maison, un grand toit très long, dans lequel il y a une centaine de lits et de bagnards.
D'accord. Mais ils sont séparés des gens les plus dangereux. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ils ont un...
En fait, chaque camp a une catégorie de prisonniers.
Ça, d'accord. Oui, donc ils se côtoient
pas. Donc, les relégués ne voient pas les transporter. C'est pas le même type de mission, c'est pas le même...
Pour le relégué, le garçon de famille, c'est la planque.
Ah, complètement.
Ouais.
Ah, complètement. C'est le métier que tout le monde veut faire, bien sûr. Ou alors, porte-clés. Mais porte-clés, c'est compliqué.
Porte-clés, on se fait égorger à la sortie, non?
Voilà, c'est un peu compliqué avec les autres codétenus. Ou alors radier. Radier, c'est un super plan aussi. Le radier, là aussi, c'est un petit boulot. Le radier, il a tout compris. Le radier, c'est le détenu. C'est les détenus qui ont le droit de tenir un petit commerce à l'intérieur d'une case. Chaque case a un radier. Souvent, il est au fond de la case. Et lui, il a du matériel. Et il vend aux autres détenus du café, des allumettes, du petit matériel. Grâce à ce matériel, les détenus vont fabriquer des petits objets en bois ou avec le matériel qu'ils trouvent et qu'ils récupèrent. Et ensuite, vont pouvoir...
Ils sont à l'intérieur du camp, quand même?
À l'intérieur de la case, carrément.
De la case?
Oui. Ils vivent dans la case, ils font partie de la case, mais eux, on leur a dit, t'as le droit de tenir un petit commerce.
Mais où est-ce qu'ils trouvent leurs marchandises?
Ah, mais c'est l'administration qui le fournit.
Ah, oui,
on parle de café. Lui, il achète à l'administration parce que, comme maintenant, si je ne dis pas de bêtises, je crois bien, les prisonniers touchent un petit pécule, mais minime.
S'ils travaillent,
bien sûr.
Ils ont un petit travail et effectivement, ça s'appelle cantiner, ce qui leur permet d'acheter des petites choses pour leur confort personnel.
Exactement.
Serviettes, papier toilette.
Exactement. Etc. Et le radier a officiellement le droit de vendre à l'intérieur.
D'accord. Ah oui, d'accord, c'est un petit marché.
Il y a évidemment plein d'autres magouilles et
ça
business.
Aussi, c'est la planque.
Ça aussi, c'est carrément la planque. Ouais. Attention, les radiers créent des jalousies.
Bah, bien sûr.
Voilà. Le radier est tout seul dans une case de 100 personnes.
Ah.
Donc c'est... Oui.
Ça va.
Il a pas... Oui, non, pardon. Il est tout seul. Les 100 autres détenus aimeraient avoir son job.
D'accord. C'est le seul, vous voulez, radier sur une centaine
de
détenus.
Voilà. Le radier peut facilement se faire agresser ou avoir un problème pour qu'on lui pique son job. Donc, est-ce que c'est le bon plan?
Oui, bah, il est toujours
je pense que garçon de famille, c'est mieux.
Les règlements de compte, oui, parce qu'ils sont protégés. Alors attention, hein, c'est pas des garçons de bonne famille, c'est des garçons de famille parce qu'ils sont au sein de la famille du surveillant, c'est ça?
C'est ça.
C'est plutôt l'inverse, c'était des anciens cas sociaux. Et les règlements de compte, alors comment ça se passe? Comment on punit les fautifs quand il y a des règlements de compte au sein du bagne,
entre détenus? Entre détenus, mmh. Ah bah c'est très simple, c'est... Un peu comme maintenant, pourquoi pas.
Ouais.
C'est un
avant,
coup
il y avait
de...
le cachot, je ne sais pas si ça existe toujours. Dans les prisons, il n'y a pas longtemps, on appelait ça ça porte un nom, le mitard.
Mm-hmm.
Le mitard, c'est la punition dans la punition. C'est une cellule, on est seul, isolé, et puis on sort pas. Ou peut-être un quart d'heure dans la journée, je ne sais pas, mais enfin, on est isolé.
Alors,
à l'isolement.
Ouais, bah, alors, l'isolement est moins une pratique. Par contre, on a parlé des cellules basses tout à l'heure. Évidemment, on a parlé des camps, d'un changement de camp qui arrive quand même assez régulièrement parce qu'on fait tourner les hommes pas mal. Et puis, il y a des punitions qui sont un peu moins sévères. Par exemple, on va être puni de distribution de vin. Il y a du vin qui est servi tous les jours, alors c'est un verre, hein, mais il y a du vin qui est servi tous les jours et on va être puni. On va aussi évidemment se voir interdit de nourriture ou d'un repas pendant quelques jours, pendant un moment. Donc,
je ne sais pas comment ils peuvent travailler en étant mal nourris avec un climat pareil.
Je crois que ça explique les 40% de taux de mortalité.
40% de taux de mortalité.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Ils sont enterrés dans des fosses communes à côté du...
Les bagnards, oui, absolument. Les gardiens, on l'a dit, dans un cimetière.
Oui, parce que les gardiens, c'est pas mal non plus comme taux de mortalité.
Oui,
en fait.
C'est évidemment moindre. Mais bien sûr qu'il y en a qui ne sont jamais revenus, bon. Évidemment.
Je rassure quand même les auditeurs, ça, je peux le dire, Charles, il survit. Non mais pour ceux qui sont inquiets, c'est pas macabre. Il n'y a pas non plus happy end, ce qu'on n'aurait pas à dire à Radio Courtoisie, où est la cochonne que je mette un euro. Mais il ne meurt pas.
Il meurt
Charles
pas.
Ne meurt pas.
On peut évoquer la guillotine aussi. En parlant de châtiment, mais soyons honnêtes, la guillotine
a quand même qu'une cinquantaine de fois.
C'est ça, exactement, une cinquantaine de fois.
Ce qui est pas grand-chose sur 100 ans d'existence.
De voilà, exactement.
J'aime beaucoup parce que je
le sujet de la guillotine, oui. Je sens que ça vous parle.
Ah, totalement, parce que je revendique d'être docteur S guillotine. Mais non, mais c'est ça me fascine. Les humanistes me comprendront. Une guillotine, c'est un grand progrès dans les instruments de mise à mort. Et alors cette guillotine, effectivement, elle sur les à peu près 100 ans qu'ont duré le bagne de Guyane.
Oui, 101 ans, très exactement.
101 ans. Mm. Elle a servi 50 fois, donc pour des cas vraiment très graves, meurtre à l'intérieur du bagne, pour quel genre de crime?
Oui, c'est vraiment assez rare. Ouais. Et typiquement, l'année du roman, il y a eu une condamnation à la guillotine. Donc c'est pas habituel. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une guillotine pour une quinzaine de camps, si on compte les tout petits camps avec une dizaine de travailleurs.
Oui, il y avait une guillotine en Guyane, il y en avait une en Afrique du Nord et une en Indochine.
Mais la technologie s'est bien déplacée, du coup.
Ouais. Mais ce qui me trouble, c'est qu'il faut quand même savoir s'en servir. Et en métropole, il y avait un bourreau en chef, l'exécuteur des hautes œuvres, Monsieur de Paris, on l'appelait Monsieur de Paris, puisque le dernier exécuteur habitait Paris et se déplaçait en province. Mais comme à l'époque, on ne se déplaçait pas comme maintenant pour aller dans les départements et territoires d'outre-mer, comme on dit maintenant, il y avait effectivement des guillotines là où la France était présente.
Mmh.
Mais c'est des vrais métiers, exécuteurs, bourreaux. C'est-à-dire qu'on était bourreaux de père en fils.
Bien sûr.
Donc là-bas, Là-bas, c'était qui faisait fonctionner la guillotine? Il n'y avait pas un bourreau, c'est probablement un des...
Ah, il y avait un administrateur chargé,
oui.
Mais maintenant, est-ce qu'il était bourreau officiellement?
C'est une punition, peut-être même.
Alors, je ne connais pas l'histoire du bourreau, vous avoue que je dis certainement une bêtise.
Il faut bien s'arrêter quelque part, on va pas... Mais votre livre est suffisamment documenté comme ça, mais ça m'aurait plu effectivement de savoir qui était chargé du sale boulot d'aller exécuter un de ses camarades de cellule.
Ah bah, de toute manière, oui, bourreau, quelle que soit la nationalité, l'époque, le contexte, ça reste un métier qui n'est pas particulièrement prisé.
Envié, non.
Oui.
Non, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il se marie entre familles de bourreaux. Et c'est pour ça que les...
Ça a créé une caste à part.
Lignée, mais exactement, tout à fait. Depuis Charles-Henri Sanson, j'ai beaucoup d'affection pour Charles-Henri Sanson, il y avait une grande lignée de bourreaux jusqu'en 81. Le dernier bourreau de France, monsieur Marcel Chevalier, était fils de... ou gendre. Enfin, c'était toujours la famille, fils ou gendre de bourreau, lui-même fils de bourreau, lui-même gendre ou fils de bourreau. Enfin, vous voyez, c'était toujours dans la famille. Si le bourreau n'avait que des filles, la fille se mariait avec un bourreau qui lui-même faisait...
Ça devait faire des belles conversations à table
en
réunion de famille.
T'es payé à la tête, toi. Non, moi, mais je vous promets que c'est vrai. Et ça a été le cas jusqu'en 81. Et le dernier bourreau est mort dans les années, je crois, début 2000. Il avait sévi en Algérie. Et les dernières exécutions, c'est pendant la guerre d'Algérie, puisque ce n'était pas considéré comme des prisonniers de guerre, mais comme des terroristes, puisque ce n'était pas une guerre aux yeux de la loi française, parce que c'était les Felagas, le FLN, étaient considérés comme des terroristes, donc de droit commun. Et quand ils avaient du sang sur les mains, on les exécutait. Pour la petite histoire, c'était François Mitterrand, garde des Sceaux à l'époque. Et il était pas pour la grâce, lui, il en a envoyé pas mal à la guillotine. Enfin, on s'éloigne. Je reviens donc à nos bagnards.
Oh, mais ce sujet
bagnards.
Est très intéressant aussi.
Mais oui,
hein.
je sens que ça pourrait être l'objet d'un livre, Le dernier bourreau de France.
La
joli
lignée
comme
des bourreaux.
Oui, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça. Il y a un livre qui est sorti il y a quelque temps, mais c'était sur des bourreaux anciens. Mais ça serait intéressant. Si vous ne me piquez pas l'idée, moi j'écrirai bien le dernier bourreau de France.
Je vais une dédicace alors.
Bah, écoutez, on s'arrangera pour les droits intellectuels. Donc revenons à nos pauvres surveillants qui vivaient là-bas. Alors vous m'avez dit, ils restaient théoriquement 3 ans.
Tout dépend de la durée de la mission. C'est-à-dire qu'un officier ne va pas rester aussi longtemps qu'une jeune recrue. Tout dépend aussi de la prime. Plusieurs types de primes sont proposées. Donc, du coup, tout dépend aussi de la durée de la mission.
Mais est-ce qu'il pouvait quand même engranger un pécule
pour... Ah, c'est justement pour ça qu'ils venaient les gardiens.
Ah, quand même.
Parce que certains gardiens, certaines catégories de personnes, un ancien militaire, une jeune recrue comme Charles, peut décider d'aller s'engager un certain temps. Mais il y a aussi des vrais gardiens de métier, des gens qui ont choisi cette
c'est
profession.
C'est quand même mieux payé.
Et c'est évidemment
aujourd'hui, outre-mer, dans l'administration, on sait que c'est le jackpot.
Bien entendu, absolument. Donc, ils sont carrément mieux payés. Il y a une prime. Et c'est pas pour rien qu'ils risquent leur vie, bien entendu. Donc, ils mettent de côté et espèrent revenir 3 ans, 5 ans ou 10 ans après la mission.
La vie est plus belle.
Tout de suite, avec de l'argent, on peut aller mourir au soleil.
oui, mais de toute façon, on meurt quand même. Mais enfin, je veux dire, si c'est pour cumuler et puis finalement ne pas en profiter, à quoi bon?
Oui, évidemment
c'est
qu'il y a des grosses,
le scorbut,
y a des grosses primes.
Parce que, pauvre ou riche, quand vous avez le scorbut...
ça ne sert plus à rien.
Oui, ça ne sert pas à grand-chose.
On est d'accord.
Bon, peut-être qu'on vous offre un cercueil en chêne. Enfin, si vous avez les moyens... Un enterrement chez Borgnol, mais enfin ça ne fait pas non plus ressusciter le pauvre. Enfin bon, mais même il y a même une inégalité dans la mort, c'est terrible, parce que quand vous regardez les cimetières, il y a des très très belles tombes, il y a même des cénotaphes, il y a des petites chapelles et tout, puis il y a la pauvre tombe où vous avez juste une croix puis de l'herbe dessus.
La vraie question, mais c'est non. Où est-ce qu'il n'y a pas d'inégalité?
Oui. Mais je veux dire, l'inégalité est humaine. Moi, je ne suis pas pour l'égalité absolue, parce que ça nous amène à des horreurs qui sont, somme toute, peut-être pires que les inégalités. Très bien, très bien. Et alors, donc, les commandants, je sais pas comment on les appelle, les commandants de bagne.
Les surveillants.
Ceux qui étaient dans le haut de la hiérarchie.
Alors, il y a quelque chose que j'ai choisi de faire, c'est de vraiment simplifier les termes techniques, administratifs, parce que ça peut vite être très lourd.
Parce que Charles, on est bien d'accord que lui était au bas de la hiérarchie.
Il est tout en bas, c'est vraiment il est vraiment tout en bas. Il y a des officiers et on les appelle les surveillants en chef et ensuite l'administration, elle, les plus importants, sont logés pour le coup sur l'île royale qui fait partie d'une des trois îles du salut. Et c'est là, par exemple, qu'on retrouve le tribunal, c'est là qu'on retrouve évidemment la meilleure infirmerie ou unité médicale, c'est quand même la base.
Mais comment l'appelle celui qui gouverne sur le...
Eh bah, ben, c'est une excellente question. Bon. J'ai peur de vous dire une bêtise, donc je suis en train de regarder. Ouais. Je l'ai noté dans mon bouquin.
Non, mais je ne vais pas vous mettre en difficulté. Hein. C'est pas un interrogatoire, c'est pas un examen.
Il y a un gouverneur. Mais, voilà. Livre à lire.
on voit le... Il y a une scène dans la Shkoumoun. Un beau film avec Belmondo et avec un acteur dont évidemment le nom m'échappe, qui est d'origine russe, qui est un comparse de Belmondo dans beaucoup de ses films, où il passe quelques années au bagne. Alors je ne sais pas si c'est bagne de Toulon, mais c'est pas à Cayenne. Et il y a le commandant, on va dire, le commandant du bagne, qui leur annonce à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que pour bénéficier de remises de peine, ils peuvent aller déminer sur les plages de France, faire du déminage, parce qu'il faut bien les employer, ces bagnards. Et donc ils acceptent tous les deux. Ah, c'est Constantin, son nom, voilà, Constantin, je ne sais plus son prénom, mais... un grand brin avec des grandes oreilles. Et le pauvre Constantin, justement, perd un bras pendant le déminage. Il y a une très belle musique de ce film de François de Roubaix. De Roubaix, qui est un compositeur de musique de film. Et d'ailleurs, dont un des patrons d'émission a pris cette musique comme... comme générique, hein, je crois que c'est Arnaud Guyot-Jamin, musique de la Shkoumoun. Vous n'avez pas trouvé pendant que je parlais. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, c'était anecdotique. Mais en fait, ma question, c'est de savoir ces gens-là, s'ils avaient l'espoir quand même d'avoir une carrière après.
Ah, bien entendu.
Ah oui, donc quand même,
bien
ça
entendu.
Donnait des points.
C'est pas, attention, les conditions sont éminemment moins compliquées quand on est à la Royale, ce qu'on appelle sur l'île Royale, donc à la Royale, et à un poste élevé, hiérarchiquement élevé, que simple gardien, jeune novice, au fin fond de la jungle de la Guyane.
Non mais ça, on se doute que, pour être là-bas...
Oui, si vous êtes gouverneur ou administrateur d'un des bagnes de Guyane, évidemment que derrière, vous avez une carrière.
D'accord, c'est pas non plus, là aussi, une relégation.
Mais c'est toujours pareil. Ouais. Pour les officiers, c'est toujours moins compliqué que pour la bidasse qui
part... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des postes qui sont honorifiques, il y a des postes qui sont... ça veut dire qu'on a été...
on va pas se cacher.
Une mutation-sanction.
Il vaut mieux être responsable du bagne de Nouvelle-Calédonie à l'époque plutôt que celui de Guyane. Ça n'a rien à voir.
J'ai l'impression que c'était le dernier des derniers.
Ah, c'était le pire du pire du pire. Et pourtant, c'est celui dans lequel on a envoyé le plus d'hommes. À titre indicatif, on a quand même envoyé 90 000 hommes en Guyane mourir littéralement dans la jungle guyanaise.
On apprend dans les livres trois fois plus qu'en Nouvelle-Calédonie.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que c'était moins loin ?
Déjà, c'est moins loin. La Calédonie, c'est quand même
particulièrement loin. La Calédonie, c'est le bout du monde. C'est vraiment l'opposé.
C'est littéralement le bout du monde.
C'est aux antipodes, là.
C'est ça. Donc, c'est moins loin. Et c'est...
Peut-être que parce qu'en Nouvelle-Calédonie, ils mouraient en route. Parce que là, il y avait peut-être 3 mois de bateau.
Alors, j'ai...
Vous connaissez bien la Nouvelle-Calédonie ?
Oui, je connais bien la Nouvelle-Calédonie. je ne sais pas
Et la Nouvelle-Calédonie, vous connaissez bien ?
Et la Calédonie me connaît un peu.
Donc il y avait quoi ? Il y avait 3 mois de bateau, non, pour aller là-bas ?
Ah, je ne connais pas le temps exact. J'aurais peur de vous dire une bêtise, mais je pense que c'est au moins 2 mois, compte tenu de la distance par rapport à...
Bah, je juge comme ça au jugé, hein, grosso modo.
Au moins.
Puisque le,
mais
le
oui, autant il y avait certainement, certainement... Alors, je suis beaucoup moins spécialiste pour le coup du bagne de Nouvelle-Calédonie, qui est un petit peu différent que le bagne de Guyane. Mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que même si jamais quelques hommes, ce qui devait forcément arriver, mouraient en cours de route, les conditions sur place en Calédonie... sont pas du tout similaires. Évidemment, ils sont enfermés aussi. Évidemment, il y a des travaux de construction à effectuer. Mais sincèrement, le climat n'a rien à voir. Il fait très chaud aussi, hein. Mais le climat est quand même beaucoup plus supportable. C'est pas la même humidité. Et surtout, en Nouvelle-Calédonie, c'est une île. C'est un petit territoire qui n'avait jamais été colonisé avant. Et sur ce petit territoire, il y a très peu d'animaux. Et donc, du coup, ça vous enlève tous les problèmes de malaria, paludisme, piqûres, morsures.
C'est tempéré, c'est un climat beaucoup plus supportable.
Il y a, alors, oui, ça, oui, c'est ça. Bah, il y a, voilà, il y a une saison, il y a un hiver. À part les requins, qui sont quand même une barrière extrêmement efficace.
Oui, quand même.
Mais en dehors des requins, en dehors de la mer, il n'y a pas d'animaux dangereux sur Terre.
Quand on connaît la position de la Nouvelle-Calédonie, même sans requins, il faut nager hein, pour obtenir...
Bien
pour
sûr,
aller en Australie ou en Nouvelle-Calédonie,
en Nouvelle-Zélande. Mais à l'époque, à l'époque, imaginez-vous que ces gars-là sont envoyés en Calédonie. Ouais. Déjà, ils savent même pas ce que c'est. Ouais. Ils savent pas où c'est. Mmh. Ils savent pas ce qu'il y a autour. Mmh. Ils ont aucune notion. Ouais. On leur explique pas.
Oui, c'est vrai.
Donc, du coup, on peut imaginer que
ils cherchent quand même à s'évader.
Bien sûr, qu'ils prennent une barque et qu'ils essayent en se disant, à un moment, je vais bien arriver
c'est
sur
une
terre.
C'est là où on voit que c'est quand même romancé pour Papillon, parce que moi, j'ai cette scène où ils se lancent sur un sac rempli de noix de coco creuses pour pouvoir flotter. Donc, en fait, c'est un flotteur et il se laisse dériver. Mais les gars,
alors,
ils savent pas où
ils
vont.
Alors là, on est en Guyane, voilà. Mais effectivement, il y a aussi beaucoup de requins en Guyane.
Ouais. Oui, en plus.
Oui.
Donc, enfin bon...
c'est très romancé, son histoire. Ouais. Maintenant, ça n'enlève rien que Papillon.
Ah, mais c'est vrai.
Fait quand même partie de la petite catégorie de bagnards qui a réussi à s'évader.
Oui, donc
c'est beau. Ouais. C'est très beau. Ouais.
Oh, bah, oui, une certaine admiration. Après, on le rend sympathique dans le film, parce que d'ailleurs,
à la base, c'est pas un monsieur sympathique.
Il y a quand même des vrais salopards. On n'en voit pas au ban pour rien.
Ah, mais ce sont pour la plupart. On l'a dit, il y a des transportés et des relégués. Il y a 3 fois plus de transportés, donc de meurtriers, etc., etc.
Pour ceux qui ont échappé à la peine de mort, faut pas oublier que la peine de mort existait, elle était employée couramment. C'est pas comme les dernières années en France où il y avait que un ou deux condamnés à mort par an et il y en avait un tous les 3 ans d'exécutés depuis les années 60.
Et en ce qui concerne les femmes, on leur proposait celles qui étaient condamnées à mort en métropole. Il arrivait qu'on leur propose, écoutez.
Eh bien, on y viendra juste après une petite pause musicale. Où nous allons passer une musique qui va peut-être rappeler pour les plus anciens d'entre nous des bons souvenirs d'enfance, Chéri Bibi.
Viens sur ma planète, viens sur mon nuage, viens au cœur de mon étoile. Viens sur ma comète, viens dans son sillage, le vent gonflera ta voile. Les murs des prisons un jour tomberont et les portes s'ouvriront. Puisque le destin nous a séparés, qu'il a coupé nos chemins, viens, viens te reposer, viens me retrouver dans le cœur de mon étoile.
Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute du Bal des Facétieux. Vous venez d'écouter un petit extrait du générique de la belle série Chéri Bibi. Chéri Bibi, une série réalisée par Jean Pignol. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à beaucoup d'auditeurs, mais moi ça a bercé une partie de mon enfance. Il y avait des comédiens... il y avait Jean Lefebvre, il y avait un comédien qui avait un nom anglais qu'on appelait le Canac dans cette série, avec une voix très très particulière. Je l'avais noté quelque part, mais évidemment, je ne retrouve plus mes notes. Ah si, voilà, avec Danielle Lebrun. Si, Danielle Lebrun, je ne sais pas si vous voyez Danielle Lebrun comme actrice, mais ce n'est pas grave.
Pas du tout.
Et Daniel Émile Cork, mais c'est un comédien de second rôle. Si vous allez voir sur Google Images, vous tapez Daniel Émile Cork, E-M-I-L-K-O-R-K. Ben, il a vraiment la tête de l'emploi, voilà. À la tête des bagnards. Enfin bref, oui, alors, on en était aux femmes là-dedans. Est-ce que des femmes étaient envoyées au bagne, en tant que, bien sûr, prisonnières?
Oui, des femmes étaient envoyées, et le principe, c'est que pour les femmes, parce que, rappelons-le, l'idée de Napoléon III, quand il monte le bagne, quand il décide qu'on monte un bagne en Guyane, c'est évidemment de coloniser, et donc d'envoyer du monde là-bas, et donc, de créer des petits Français... Et voilà, absolument. Bah, pour que ça
vive.
Donc, on envoie des femmes. Sauf que, encore à l'heure actuelle, ce sont plutôt des hommes qui commettent des... En règle générale, ce sont des hommes qu'on enferme et beaucoup
moins
des femmes.
Les femmes s'y prennent mieux pour ne pas se faire prendre.
Oui, voilà, ça doit être ça. Ça doit être l'explication. Ouais. Toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup moins de femmes qui sont condamnées.
Ouais.
Et pour les femmes qui sont condamnées à la peine de mort, on leur laisse les choix. On leur dit, écoutez, soit au revoir, échafaud, soit vous avez une chance, mais vous ne reviendrez jamais parce qu'on vous envoie en Nouvelle-Calédonie, vous faites une petite peine ou même pas, ça dépend, généralement vous faites quand même une peine, et derrière vous ne reviendrez jamais, mais merci en filigrane, merci de vous reproduire.
D'accord, et travailler pour la France, quoi.
C'est exactement ça.
Par contre,
vous gardez votre tête.
Oui.
L'un dans l'autre.
Bah, il vaut mieux.
L'un dans l'autre.
Bah, je pense qu'elle devait choisir toute le bagne.
Beaucoup. Mais en fait, sur l'ensemble, on va compter à peu près 1000 femmes.
C'est tout?
C'est tout.
En 100 ans?
C'est tout. Sans parler que...
Ça fait pas grand-chose avec 1000...
Ça fait pas grand-chose. Ouais. Et si vous rajoutez la malaria, la fièvre jaune, les plaies qui s'infectent,
Elle mourait à 36 ans.
Voilà, c'est ça.
C'est l'âge où on n'enfantait déjà plus, à l'époque.
Absolument, attention, il y a une peine avant.
Et ah oui?
Oui, c'est ça. Elles n'arrivent pas forcément à 20 ans non plus.
Oui.
Donc non, les femmes c'est quelque chose.
Oui.
Et puis y a la lèpre, et puis c'est vraiment pas des belles conditions.
C'est pas le Club Med, hein.
Non.
Ouais. Donc alors on a des traces de ces, il y a des personnages saillants dans ces des femmes qui sont allées au bagne, parce qu'on parle toujours des hommes, forcément, parce qu'il y en a beaucoup plus.
Il n'y en a pas.
Mais il n'y a pas une
évidemment,
femme qui
c'est un sujet hyper intéressant. Il n'y en a pas une particulièrement. En tout cas, pas en Guyane. Hein. En Calédonie, côté politique, il y a quand même des choses à dire.
Louise
c'est
Michel
moins mon domaine,
allée,
par exemple.
Hein, Louise Michel est allée en Nouvelle-Calédonie.
Exactement. Donc là, pour le coup, on a des vraies figures féminines. Côté Guyane, je ne vais pas vous le cacher, la plupart des femmes qui atterrissent au bagne, derrière, vont vendre leurs services. Donc, du coup, la prostitution est extrêmement courante. Mmh. Et les bagnards, quand je vous parlais d'une société qui s'est créée, les bagnards, régulièrement, ont recours au service de ces dames. Je ne vous parle pas non plus des maladies qui circulent, etc. Mmh. Mais ça permet à l'un comme à l'autre, du coup, de trouver une bonne raison.
Ça ne fait pas beaucoup de famille, quoi. C'est raté pour le coup.
En tout cas, c'est raté pour le foyer.
C'est loupé, oui.
Je ne dis pas que ça...
Je pense que là, Napoléon III n'a pas vu les choses ainsi.
Il y a quelque chose qui n'allait pas dans le nombre de femmes par rapport au nombre. C'est-à-dire que 1000 femmes sur 101 ans par rapport à 90 000 hommes sur 101 ans, il y a quelque chose qui ne va pas dans la bataille.
Non, mais souvent, il y avait des prisons pour femmes... À Paris, elles étaient à Saint-Lazare. Il y avait la prison pour femmes de Saint-Lazare. Et la petite Roquette aussi. Mais c'est très rare qu'elles étaient condamnées quand même au bagne. Enfin, il n'y avait pas tant que ça.
Bah oui.
C'est pas des conditions. Et puis, ça devait embêter en plus l'administration, parce que ça veut dire qu'il fallait aussi...
Elles avaient un camp à part. Évidemment, elles n'avaient pas... Il y a un camp à part pour les femmes. Et il n'y avait pas de...
Mixité dans le...
Oui, bah, je parle des femmes parce que... Alors,
il n'y avait pas de gardienne, eux?
Non. Et on ne va pas se leurrer, c'est vraiment un milieu de d'hommes. C'est un milieu carcéral d'hommes, que ce soit. Mais il y a quand même des femmes. Certaines femmes ont une petite importance, on va dire, au sein de la société. C'est-à-dire que c'est important pour les hommes, ne serait-ce que de voir une présence féminine. Et évidemment, je parle du côté prostitution, parce que Charles va se retrouver forcément tenté de recourir à ce procédé, vu le manque de femmes.
Ouais, parce que où sont les femmes?
Bah, à un moment, ça c'est-à-dire que
pour
dans une société...
Pour un homme jeune, comme ça...
Voilà, hein, voilà.
D'ailleurs, vous cachez rien dans le livre, il y a des relations homosexuelles entre
détenus. Oui, c'est ce qu'on appelle la dépravation.
Voilà,
la dépravation. Un charmant terme employé à l'époque.
Aujourd'hui, oulala, on n'aurait pas le droit de dire ça.
Ce sont les rapports sexuels entre détenus, en fait. Donc on appelle ça la dépravation, et forcément ces rapports sexuels, exactement au même titre que ceux avec une prostituée, va amener quand même énormément d'infections qui se rajoutent à la longue liste de ce qui peut causer.
Il n'y avait pas les antibiotiques à l'époque.
Bien sûr que non. Et tous les camps n'avaient pas d'infirmerie, et l'infirmerie est composée en partie de détenus. Là encore, certains détenus travaillent à l'infirmerie, comme d'autres sont garçons de famille. Donc les compétences, en plus entre deux guerres, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les compétences sont quand même peu vues dans tous les camps.
Et puis on voit dans le film Papillon, on voit aussi les petits trafics pour être mieux traité, des petits
avoir
bachiches,
une double ration, arriver à revendre un...
Le pécule qu'il faut cacher, un endroit que la décence m'interdit de dire.
Piquer une gorgée de rhum, parce qu'il y a du rhum qui est produit.
Ouais.
Il y a une romerie, elle est toute petite, elle produit vraiment pas beaucoup, mais il y a une romerie. C'est une
petite société,
c'est
clandestine.
C'est une mini-société, et dont une partie est clandestine, effectivement.
C'est tout ça s'est terminé donc dans les années 50. Alors je ne dévoile pas la fin, mais de toute façon, notre héros, le héros de votre roman, c'est plutôt un homme de l'entre-deux-guerres.
Absolument. Alors lui ne peut pas avoir connaissance de la future guerre qui s'annonce.
Voilà.
Mais oui. La Première Guerre mondiale a fait des ravages pour la France. Il y a plus d'argent. Il y a beaucoup moins d'hommes, forcément. Il y a un besoin de main d'œuvre. Donc, la France ne va pas bien à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que la pénitentiaire va, à ce moment-là, recruter extrêmement large, un peu ce qu'elle trouve comme hommes qui ont survécu à la guerre.
Est-ce que vous êtes servi des documents d'Albert Londres ?
Énormément. Et ça a été évidemment une énorme source d'inspiration. Et je dois même dire que je me suis arrangé pour que...
Parce que c'est peu connu qu'Albert Londres...
Albert Londres, pour rappel, est un grand journaliste à l'époque, donc à la même époque, un contemporain de Charles. Et donc, du coup, ce grand journaliste a plusieurs sujets qu'il développe et qui l'intéressent. Et à un moment, il se trouve intéressé par le bagne et les conditions de vie au bagne. Il arrive, du coup, en Guyane. Et en Guyane, il est horrifié et extrêmement choqué de ce qu'il découvre. Et lui, qui travaille pour un quotidien qui est très connu à l'époque, qui s'appelle Le Petit Parisien, va envoyer régulièrement ses papiers, ses articles à ce journal, et ça va être publié très régulièrement. Et en fait, il fait des portraits et il explique ce qu'il voit, et c'est tellement horrifiant que le grand public se rend compte des conditions de vie des bagnards, et donc du coup des gardiens et de l'administration qui est sur place, se rend compte des conditions de vie, découvre la peine du doublage. Et Albert Londres va être vraiment, de par sa notoriété et de par ses articles sur le bagne, va être vraiment le premier jalon qui va commencer à entamer le début de la fin du bagne. C'est-à-dire que une fois que le grand public est au courant des conditions, parce que c'est une chose d'être d'accord qu'il y a un bagne très très loin dans les colonies qu'on n'a jamais vues. Mais quand on vous décrit l'horreur de ces hommes qui n'ont pas le droit d'être assis, allongés, qui sont sous 50 degrés au soleil, quand on décrit ça et que les Parisiens d'abord et ensuite la métropole s'est rendu compte de ça, ça a précipité la fin du bagne.
C'est le premier qui va je dirais, éveiller les consciences
absolument.
Sur les conditions effroyables du bagne, particulièrement de Cayenne.
Oui.
Et alors, vous les avez trouvés où? C'est intéressant de savoir comment vous vous êtes documenté.
Alors, de plein de manières. Alors, évidemment, on en a parlé, il y a les écrits d'Albert Londres.
Ouais. Mais, mais vous les avez trouvés où, les écrits d'Albert Londres?
Ah, ils sont publiés.
D'accord, mais c'est peu connu. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller fouiller
Alors, Albert Londres, pour le bagne, c'est quand même une énorme référence. Une de ses œuvres majeures les plus connues.
Je ne savais pas, moi, je
s'appelle,
le connais comme...
s'appelle Au bagne.
Comme journaliste, comme, mais pas, je ne savais pas qu'il avait écrit...
Il avait ses sujets, et effectivement, le bagne en a fait partie.
Non, parce qu'il n'est pas, à ma connaissance, il n'était pas beaucoup cité pour ce sujet-là, en tout cas.
C'est vrai que quand on fait des recherches sur ce domaine, précisément, c'est une référence. C'est une référence. Ouais. C'est pas le seul, parce que derrière lui, il y a un... Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un monsieur Lalique ou Laric, quelque chose comme ça, qui est un grand reporter aussi, et qui, lui, pour le coup, Albert Londres lui a donné des idées et a fait à peu près la même chose, juste derrière. Donc, on a quand même quelques écrits. On a évidemment des bagnards qui ont publié leurs récits. On citait tout à l'heure Papillon. Et on a aussi des surveillants qui ont écrit leurs mémoires. Et donc, entre... les ouvrages qui ont été publiés, donc qui sont encore disponibles, entre les archives du coup publiques. Donc moi, je me suis rapproché évidemment de Cayenne pour qu'il m'envoie les documents.
Où est-ce que vous avez trouvé alors
J'ai appelé l'administration pénitentiaire. Je leur ai dit coucou, je cherche ça.
Très débrouillard.
Ils m'ont renvoyé. Je suis journaliste à la base, donc. Logiquement.
Ouais.
Et voilà, et avec toutes ces informations, et il y a aussi pas mal de choses en ligne qui n'ont pas été publiées, donc des écrits de l'époque qui n'ont pas été publiés.
Là, il nous reste à peine 4 minutes, donc c'est pour ça que je préfère parler de Louise Dauzet maintenant, que nous découvrons. Ça vous embête de nous lire un petit passage?
Ma magnifique voix éraillée d'aujourd'hui, je vais...
Ce passage là de d'Iline, ce que j'ai souligné. Parce que
allez. Les camarades de cabine de Charles avaient appris bien avant leurs collègues, grâce à Georges, lequel tenait lui-même cette information d'un matelot, qu'il ne débarquerait pas dans l'une des villes de la côte. Ils avaient passé de nombreuses soirées à bord à débattre sur leur destination, mais personne n'avait imaginé que le bagne de Saint-Laurent puisse être aussi éloigné et aussi peu imposant. Une fois la petite troupe de gardiens arrivée sur les lieux, deux surveillants à l'air tout aussi fatigués qu'eux les avaient conduits à leur quartier où tous s'étaient vus assignés un lit. Les agents leur ayant demandé d'attendre les ordres à l'endroit où on était venu les chercher, Charles, désabusé par une distribution de dortoirs malheureuse, avait rapidement rejoint la grande cour dans laquelle les bagnards étaient toujours rassemblés.
Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un journaliste s'intéresse à ce sujet quand même?
Je crois qu'on peut parler de déformation professionnelle.
Oui.
En fait,
c'est Jean Valjean qui vous a... Non
pas tout à fait. Ouais. En fait, de manière générale, j'ai une appétence pour l'histoire, la grande histoire. Et je trouve très intéressant, personnellement, quand je lis un roman, d'apprendre quelque chose. Et il se trouve que je me suis rendu compte, il y a quelques années, que je connaissais vraiment pas grand-chose à cette époque, dont aux 101 ans du bagne de Guyane. Et il se trouve que, comme ça m'a intéressé, j'en ai parlé à mon entourage. Et mon entourage était quand même très, très peu au courant. En fait, tout le monde, dans notre imaginaire collectif, tout le monde a une idée du bagne. Mais on ne se rend pas compte des conditions dans lesquelles ils étaient. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, donc du coup, de raconter une histoire qu'on apprend, qu'on survole à l'école, mais qu'on n'apprend pas réellement.
Oui, parce que moi, je n'ai jamais parlé des bagnes à l'école.
Et pourtant, c'est tellement récent. Le dernier a fermé il y a 70 ans. C'est quand même incroyable. Récemment, il y a quand même eu des projets de remonter un bagne. Il faut
là-dessus, oui, c'est vrai. Oui.
Ouais.
C'est ça le déclic. C'est Monsieur Vauquier.
Disons que ça
Monsieur
tombe.
Monsieur Vauquier qui voulait faire un bagne en envoyant à Terre-Neuve là.
Et je trouve ça important
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Voilà.
Comme si les pauvres de Saint-Pierre-et-Miquelon étaient bons qu'à recevoir des prisonniers. C'est assez humiliant et insultant. Et d'accord.
Donc,
je comprends mieux.
C'est important de à l'heure où on veut recommencer l'histoire. C'est important de, je trouve, de se rappeler. Pourquoi pas recommencer? Mais attention, soyez bien conscients que c'est ça les conditions du bagne.
Moi, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas assez de prisons en France. Je trouve que le fait de construire des prisons améliorerait leurs conditions, puisque maintenant, au lieu d'être
avec la surcharge carcérale,
au lieu d'être deux par cellule, ils sont six et ils dorment par terre. Personnellement, voilà, si un jour, que Dieu m'en préserve, je devais être prisonnier, j'espère que je pourrais bénéficier du quartier VIP. Comme...
non, mais parce que rien
c'est,
de moins.
C'est épouvantable, je serais maltraité par mes co-détenus, ou je deviendrais peut-être le caïd, le chef de bande. Bon, eh bien, est-ce que vous avez quelque chose à dire de, davantage sur cette épopée
Ah bah, ça serait dommage de après cette grosseur de dévoiler encore plus.
Ah, je ne veux pas. Non,
tout
non,
ce qu'on peut apprendre dans ce et réaliser non, dans
sur,
ce livre.
Non, non, mais sur le bagne en général ou sur vos recherches.
Eh bah que moi j'ai appris tellement de choses.
Mais moi
en
aussi.
Fait, c'est passionnant.
Ouais.
Cette histoire réelle est passionnante. Ouais. C'est-à-dire qu'il soit passé autant de choses aussi récemment.
Voilà, eh bien, écoutez, merci, chers auditeurs. Vous étiez à l'écoute du Bal des Facétieux. J'ai reçu ce soir Louise Dauzet pour son livre « Les oubliés de l'enfer vert » aux éditions City.
Vous venez d'entendre le Bal des Facétieux, dirigé par Charles-Henri Deslois, émission préenregistrée le 31 mai 2026 et diffusée pour la première fois jeudi 9 juillet 2026 de 19h30 à 21h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.